Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Deux événements importants en cette semaine. Le premier, c'est l'éclipse dont vous avez tous entendu parler. Vous savez tous que dans la tradition de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est recommandé d'accomplir deux génuflexions à l'occasion de cet événement exceptionnel. Bon, il y en a qui travaillaient, il y en a qui étaient à la fac, qui étaient à l'école, ou il y en a même qui ne le savaient pas. Ce n'est pas la fin du monde, il n'y a que 5 prières obligatoires. Vous le savez très bien. Toutes les autres prières sont surrogatoires. Celui qui les accomplira sera récompensé. Celui qui ne les aura pas accomplis n'aura pas commis de péché. Mais nous devons tirer des leçons de cet événement. La première des leçons, c'est celle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu que les musulmans assimilent. C'est que ce qui se passe dans cet univers ne se passe que par la volonté de Dieu. Aucun être humain n'a la possibilité ni la capacité d'interférer dans la gestion de l'univers. Dieu a créé les astres et ces astres sont soumis à des lois physiques, immuables, inchangeables, sauf si Dieu le veut. C'est ce qu'on appelle le miracle. Ainsi, nous n'avons pas la possibilité, nous, êtres humains faibles, d'interférer dans le bon déroulement du système solaire. C'est pour cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a saisi l'occasion pour rappeler à certains de ses compagnons qui avaient encore des idées de la jahiliya, de la période anti-islamique, pour leur dire que si éclipse il y a eu, ce n'est pas parce que mon fils est décédé. Car le jour de l'éclipse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son fils bien-aimé Ibrahim, le fils de Marie la Copte. Et certains compagnons ont cru, parce que ça fait partie de leur héritage culturel, que le soleil s'est éclipsé, car il a été attristé par la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un égarement manifeste que de croire que nous sommes capables, nous, êtres humains faibles, d'avoir un impact sur l'univers. Nous sommes soumis à des lois comme les astres sont soumis à des lois. Ce que Dieu nous demande, c'est de développer notre savoir et nos connaissances pour comprendre et découvrir les lois qui gèrent l'univers afin d'exploiter cet univers de manière raisonnée pour notre bien-être et notre bonheur sur Terre. Mais en aucun cas, développer nos connaissances pour les utiliser afin d'assujettir l'homme à l'homme en lui faisant croire que les astres ont un impact sur lui ou que lui, il peut avoir un impact sur les astres. L'astrologie est une hérésie, c'est de la mécréance. L'astronomie est une science dont nous avons besoin. Pourquoi ? Pour pouvoir justement apprécier et découvrir la grandeur de la création, donc du Créateur, et pouvoir tirer profit de cet univers pour notre bien-être. Ainsi, il n'y a pas eu d'éclipse parce que le fils du prophète est décédé. Il y a eu une éclipse parce que le soleil, la lune et tous les astres, eux, ont été créés par Dieu et sont assujettis à des lois qui sont immuables. Si nous avons la science et la connaissance, nous sommes capables d'annoncer à l'humanité tout entière le jour, l'heure, la seconde, la minute et la seconde de l'éclipse. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Les textos et les mails ont circulé. Vendredi matin, à telle heure, il y aura une éclipse. Et l'éclipse atteindra son paroxysme dans telle ville, à telle heure. Et personne parmi vous n'a douté de ces informations puisqu'elles sont scientifiques et elles ont été dictées par des scientifiques et des spécialistes. Au lieu d'en tirer des leçons et de dire « Alhamdoulilah, Dieu nous a donné un cerveau pour comprendre, un cerveau pour exploiter l'univers », vous savez ce que font les musulmans ? Au lieu de s'incliner devant la grandeur de Dieu, et reconnaître la beauté de l'intelligence de l'homme, l'être humain, écoutez bien, et le musulman en particulier, met de côté son esprit critique et est prêt à avaler des superstitions, des croyances erronées, ou il est prêt à accepter des pseudo-connaissances religieuses dictées par des pseudo-écarts de savants qui vont les pousser à remettre en question, à nier des évidences scientifiques. Ainsi, vous tous ici, vous saviez qu'il allait avoir une éclipse ce matin, vous saviez à quelle heure elle devait avoir lieu, et vous avez accepté cette information, et vous allez voir ce qui va se passer dans 3 mois au début du Ramadan. La polémique va recommencer, battre de plus belle. D'ailleurs, je vous annonce une mauvaise nouvelle, elle a déjà commencé depuis 3 semaines. Oui, la polémique sur le début du Ramadan. Alors, est-ce que ça sera un jeudi? Est-ce que ça sera un vendredi, un mercredi? Pourquoi toute cette polémique? Alors que, regardez, on vient de nous dire l'éclipse a eu lieu ce matin à 10h30. Ceux qui vous ont dit que l'éclipse a eu lieu à 10h30, ce sont les mêmes qui vous diront qu'il y aura une conjonction lunaire, je dis une date au hasard, le 17 juin à 9h35 du matin, point final. Mais non, dès qu'il s'agit, écoutez bien, du Ramadan, les musulmans sortent les armes pour s'entre-déchirer, s'entre-disputer, s'entre-diviser. Jusqu'à quand cet abêtissement? Jusqu'à quand des demi, des quarts d'imams, ou plutôt des gens qui n'ont rien à voir avec le religieux ni avec la science, nous dictent le début du Ramadan et la fin du Ramadan? Ils n'ont pas, ni les religieux, ni les ignorants, à nous dire quand le Ramadan va commencer ou quand il va finir. C'est de la science. Quand vous êtes malade, vous demandez à un médecin. Quand votre voiture est malade, vous l'emmenez à un mécanicien. Si vous voulez savoir la conjonction lunaire, vous demandez à un astrophysicien. C'est tout bête, c'est tout simple. Ça évite la dispute, ça évite la discorde et la division. Mais je vous annonce une mauvaise nouvelle. Ça va encore continuer quelques années. Parce que justement, nous sommes prisonniers de quarts et de demi de savants qui osent dire que la Terre ne tourne pas. En l'an 2015, au nom de Dieu, du prophète et de la science et de la logique, la Terre ne tourne pas. Vous vous rendez compte? Et ils osent même dire que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. Et pourtant, c'est enturbanné. Et pourtant, la dégaine est la dégaine d'un religieux et d'un savant. Mais l'habit ne fait pas l'imam. Et vous n'avez pas à suivre bêtement un imam. Dieu vous a donné une intelligence, vous devez la préserver. Et la meilleure façon de préserver son intelligence, c'est d'avoir de la science et de la connaissance. Et la science et la connaissance, ça s'acquiert auprès des gens compétents et chacun son domaine. Laissez le religieux aux religieux, laissez les sciences profanes aux savants profanes. Ça évitera quoi? Ça évitera les divisions. Alors cette éclipse qui a eu lieu ce matin est un signe pour ceux qui sont doués d'intelligence afin qu'ils ne tombent pas dans la polémique vaine et futile du début du mois de Ramadan. Car si cette éclipse ce matin ne vous a pas dérangé, ne vous a pas perturbé, pourquoi l'annonce du Ramadan vous dérange et vous perturbe? Soyez cohérents et soyez logiques et vous verrez qu'on pratiquera notre religion dans la paix et dans l'harmonie. C'était le premier point. Le deuxième point. Dieu dit dans le Saint-Coran, « وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ » Ce verset du Coran, vous devez le connaître par cœur. Ou si vous ne le connaissez pas, retenez les leçons fondamentales de ce verset du Coran. Pharaon, le tyran et le despote, le dictateur, avait des conseillers. Des conseillers qui l'incitaient à combattre Moïse et tous les croyants. Mais parmi ces conseillers se trouvait un croyant. Un homme qui cachait son appartenance religieuse. Il faisait partie des élèves de Moïse. Et il était un des proches de Pharaon. Et il a joué le jeu de la transparence. Eh oui, je suis à tes côtés, Pharaon. Pourquoi? Pour te conseiller dans le bien. Et c'est cet homme qui va sauver Moussa, alayhi salam. Car Pharaon et les siens ont condamné à mort Moussa. Et comme cet homme était à l'intérieur du système, et il a eu l'information, et il l'a transmise à Moussa en temps et en heure, et Moussa a pu échapper à une mort sûre et certaine. Oui, un homme doué d'une intelligence hors pair, puisqu'il a su se taire quand il fallait se taire, et il a su s'exprimer quand il fallait s'exprimer. Il a su être présent là où il fallait, afin que d'autres ne prennent pas sa place et conseillent Pharaon dans le mauvais sens. Il a su être présent là où il fallait, afin qu'il ait l'information pour éviter un malheur. Oui, la politique de la chaise vide est un crime. Le fait que nous ne soyons pas impliqués et engagés, le fait que nous ne soyons pas présents là où ça se discute et ça se décide, est un crime contre notre communauté. Si ce croyant dont on ne connaît pas le nom, et vous n'avez pas à connaître son nom parce que ce n'est pas ça qui est important, ce que vous devez savoir, c'est comment il pensait, comment il a agi et ce qu'il a fait. Il était à côté de Pharaon. Car il vaut mieux que ça soit lui qui soit à côté de Pharaon qu'un autre diable qui va confirmer Pharaon dans l'égarement. Il était à côté de Pharaon pour avoir les informations et les transmettre à qui de droit. Il était à côté de Pharaon parce que Moïse lui a dit « Reste à ta place, parce que tu seras utile là où tu es. » Et effectivement, il a été utile. Sans transition. Si vous savez lire entre les lignes, sinon, dimanche, vous devez être présent là où il faut être présent pour dire ce qu'il faut dire. Oui, il y a des élections dimanche cantonales, le département. Au cas où vous ne le sauriez pas, le département s'occupe des collèges. Le département s'occupe des personnes âgées. Le département s'occupe de toutes les aides sociales. Oui, il faut voter. Pourquoi est-ce qu'il faut voter ? Pour dire la vérité, pour défendre la justice. Vous devez voter pour soutenir le meilleur des candidats. Vous devez voter pour empêcher le pire des candidats de prendre le pouvoir. Vous devez voter pour exister politiquement, ne serait-ce que pour que vous soyez respecté. Vous devez être présent dimanche, à côté de certains pharaons. Ne serait-ce que pour qu'ils tiennent compte de votre existence et qu'ils diminuent un peu la pression sur vous. Parce que la plupart des hommes politiques ne comprennent qu'un langage, celui des urnes. Et le langage des urnes est mathématique. C'est du comptage en fin de journée. Ainsi, c'est un devoir en tant que citoyen d'améliorer notre société en mettant au pouvoir des gens honnêtes, des gens sérieux, des gens qui ont un esprit altruiste. C'est un devoir en tant que citoyen de sanctionner ce jour-là ceux qui n'ont pas fait leur travail. C'est un devoir en tant que citoyen d'exprimer son désaccord. Oui, vous avez le droit de voter blanc. Et sachez que c'est le parti le plus important en France, celui des abstentionnistes. Et je ne veux pas que vous abstentionniez. Il faut que vous alliez aux urnes. Et si vous voulez un conseil, ne votez pas blanc. Votez pour le moins pire si vous considérez qu'ils sont tous mauvais. Et entre vous, n'avez pas le droit de considérer qu'ils sont tous mauvais parce que c'est accusé des innocents. Vous n'avez aucune preuve. Faites une enquête, recherchez et votez pour le meilleur. Est-ce que vous savez qu'il y a à peu près un mois, un des futurs candidat à la présidence de la République a annoncé que le jour où il serait président, il allait faire voter une loi pour interdire à vos femmes, à vos filles, à vos mères, à vos épouses, à toute femme musulmane qui a décidé de porter un voile de le porter dans la rue. Dans 2 ans, on a des présidentielles. Et la campagne présidentielle a déjà commencé avec des relents d'islamophobie. C'est-à-dire qu'il ne le cache même pas. Il vous annonce déjà les couleurs. C'est-à-dire qu'il t'annonce comment il va te manger. À quelle sauce il va te manger dans 2 ans. Vous votez pour moi, voilà ce que je vais faire. Vous ne votez pas contre moi, voilà ce que je vais faire. Dans n'importe quel cas de figure, si jamais j'ai le pouvoir, je vais vous satisfaire, vous, qui êtes allergique à la différence. Je vais imposer, je vais faire voter une loi et imposer à des femmes de s'habiller comme je veux, comme voudra la majorité de l'Assemblée. Est-ce que vous êtes capable d'entendre et de comprendre la gravité de ces propos? Ça s'appelle de la dictature, mais cachée, à travers une démocratie. Ça s'appelle du conformisme. C'est-à-dire, soit vous êtes comme moi et vous êtes accepté, si vous êtes différent, vous serez rejeté. Et le problème des musulmans, c'est qu'ils sont au courant et ils attendent. Ils attendent leur tour. Pourquoi ? Est-ce que des hommes politiques se permettent de gagner des élections sur notre dos ? Pour la simple et unique raison, c'est qu'ils ne nous considèrent pas comme des citoyens à part entière. Et vous savez pourquoi ils ne nous considèrent pas comme des citoyens à part entière ? Parce que nous ne voulons pas assumer notre citoyenneté. Et assumer sa citoyenneté, c'est, entre autres, parce que vous êtes quand même des citoyens, puisque vous respectez les lois de ces pays, puisque vous êtes des gens qui avaient une morale civique. Mais le problème, c'est que vous n'êtes pas engagé politiquement. Vous croyez qu'en restant à la marge, vous croyez qu'en vous désolidarisant de tous les partis, parce que vous les considérez comme des partis opportunistes, vous avez résolu le problème. Vous ne faites qu'aggraver la situation, chers citoyens musulmans de France et de Navarre. Car le politique ne comprend qu'un langage, le langage des urnes. Vote, tu seras respecté. Tu ne votes pas, en tant que politique, je n'ai pas à te courtiser. Je n'ai pas à chercher à te plaire. Au contraire, si je peux t'utiliser pour gagner, je vais le faire, parce que je suis machiavélique sans foi ni loi. C'est pour cela qu'on n'arrête pas de vous dire, le vote à lui tout seul, le fait que vous alliez voter, quel que soit, je ne suis pas en train de vous dire votez pour un tel ou un tel. Je ne le dis pas, je ne le dirai jamais, je ne le ferai pas, parce que ce n'est pas mon rôle, ce n'est pas mon devoir. Écoutez bien, rien que le fait que vous alliez, que vous votiez, c'est suffisant, même blanc, pour envoyer un message clair aux politiques. Je suis là, respecte-moi. Je suis là, crains-moi. Car si jamais tu dis ou tu fais quelque chose qui ne va pas dans mon sens, je vais te sanctionner. Alors, je vais le dire de manière plus directe. Je vais même être provocateur. Et c'est fait exprès parce que parfois il faut des chocs pour que l'être humain se réveille. Alors prenez pas à la lettre ce que je vais dire. Il y a du premier, il y a du deuxième degré. C'est pas grave. Écoutez ce que je vais vous dire, prenez-le et discutez à la sortie, discutez demain, discutez sur la Facebook, sur Twitter. Allez-y, créons le débat. Écoutez bien. Il y a des hommes politiques, dès aujourd'hui, qui nous disent, à nous musulmans, dans 2 ans, quand j'aurai le pouvoir, je vais enfermer vos femmes. Elles ne pourront plus sortir. Je vais les mettre en prison. Parce que cette pauvre musulmane qui pense et qui croit que le voile pour elle est une obligation, et si elle ne peut pas le mettre à l'extérieur, elle va rester chez elle. Et elle ne sortira qu'en cas d'urgence. Comment est-ce que vous acceptez que quelqu'un décide à votre place quand vous allez sortir avec votre femme, vous n'allez pas sortir avec votre femme? Comment vous acceptez que quelqu'un dise à votre femme quand elle doit sortir, quand elle ne doit pas sortir? Au nom de quoi on ose dire à nos femmes, habillez-vous comme ça et ne vous habillez pas comme ça. Au nom de l'islamophobie. Au nom de la surenchère politique. Ma main est coupée que certains hommes politiques ne sont pas islamophobes, n'ont pas peur de l'islam, n'ont pas la haine de l'islam. Mais ils savent que s'ils vomissent sur les musulmans et l'islam, ils vont gagner les élections. C'est bas, c'est nul, c'est malhonnête, je le sais. Mais bon, c'est lui, hein, c'est le trône. Bien sûr, c'est lui qui pousse les gens. L'amour du pouvoir, Pharaon. On fait quoi? On fait quoi en tant que musulmans qui attendons? En 1989, première affaire du foulard à Creil. On nous a dit, vos filles, on ne veut pas qu'elles s'habillent de telle manière. 15 ans plus tard, on est bien au mois de mars. C'est un anniversaire. Le 15 mars 2004, une loi a été votée à l'Assemblée pour interdire aux jeunes filles de porter le voile au lycée et au collège. Regardez, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais ils ont mis quand même 15 ans pour préparer l'opinion publique. Et ça a marché. On nous annonce maintenant, après vos filles, vos épouses, vos mamans. On fait quoi? Vous attendez que ça arrive? Je ne sais pas, un peu d'honneur, un peu de fierté. On fait comment? Vous n'avez pas d'autre solution. Si ce n'est que d'envoyer des messages clairs à ces hommes politiques et à ces femmes politiques, on vous attend au tournant le dimanche. Vous ne passerez pas, on ne vous laissera pas être élus pour voter des lois qui vont nous empêcher de rester des hommes et des femmes libres. Dites-moi, est-ce que vous avez une autre solution? Vous savez quelle solution vont vous donner certains pseudo-écarts d'imams? Ils vont vous dire qu'il faut faire la hijra. Ah, mais allez-vous-en, prenez vos valises et quittez. Tout ça pour vous maintenir. Dans quoi? Dans l'attentisme. Attendez que ça arrive, ne faites rien. Et une fois que ça arrive, allez-vous-en. Ils iront même jusqu'à vous dire, c'est haram de vivre en France, puisqu'en France, il y a une loi qui interdit le voile. Moi, je vous annonce les couleurs. Vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas partir. Alors, autant être français et l'assumer, notre identité nationale. Et être français, c'est ne pas se laisser faire. Être français, c'est parler, dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Et on doit s'exprimer médiatiquement, intellectuellement, et on doit s'exprimer politiquement. Le jour où les politiques auront compris que s'ils nous insultent, nous allons leur faire payer les insultes, ils se tairont. Le jour où les politiques auront compris que si ils continuent à nous utiliser pour gagner les élections, ils vont les perdre, ils arrêteront de nous utiliser. Sinon, je vous annonce des mauvais jours dans quelques années. L'islamophobie, depuis l'affaire Charlie, ne fait qu'augmenter. Et certains politiques ne font que l'entretenir. Aux urnes, musulmans, citoyens. Et vous voulez un conseil dimanche? Allez à l'urne avec un voile. Oui, mettez-le. En signe de protestation. Allez aux urnes avec vos femmes et vos enfants. On est là et on ne se laissera pas faire. De manière démocratique. Pas de manière tarée, bête et stupide, anti-islamique et anti-démocratique. Vous ne résolvez pas les problèmes en criant, en insultant, en frappant, en boycottant. Vous réglerez des problèmes en assumant vos devoirs. Et ne demandez pas à quelqu'un d'autre de faire le travail à votre place. Wallah, et personne ne fera le travail. Sinon, on n'est pas clair. La campagne a commencé. Voilà, c'était les deux choses importantes. Sinon, il y a des informations. Il y a une personne qui est décédée, le Hajj Sekiou Mohamed. mais on nous demande de faire des invocations pour lui. Et après le Jumu'ah, vous aurez les autres annonces quant aux activités de cette semaine. Allahumma ghfir lahu warhamhu, wa'afu anhu wa'afihi wa'akrim nuzulahu, wa'wasi' mudkhalahu. Allahumma rzuq li ahlihi as-sabr wa-silwan, wa'ajirhum fi musibatihim. Allahumma la taftinna ba'dahu, wa la tahrimna ajrahu. Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah, wa la taj'alu hufratan min hufari jahannam. Allahumma rzuq lahu daran khayran min darihi, واهلا خيرا من اهله اللهم احفظ اولادنا اللهم احفظ احفادنا اللهم اصلح لنا ازواجنا اللهم اصلحنا لازواجنا اللهم ارحم والدينا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات اللهم انصرنا على من عادانا واكفنا شر اعدائنا اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان اللهم عز الإسلام بنا وعزنا بالإسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.